Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Como, Marie Sorbier et Philippe Chevier pour parler ensemble de la Gioia, une création de Pippo Del Bono, en ce moment au Théâtre du Rond-Point. Jungle Book, d'après le livre de la jungle de Rudyard Kipling. C'est un spectacle mis en scène par Bob Wilson, sur une musique de Coco Rosie. C'est en ce moment au Théâtre de la Ville à Paris, et puis la tournée se poursuivra de par le monde. Il y aura un coup de cœur de Marie Sorbier, consacré à Peter Handke, qui a reçu la semaine dernière le prix Nobel de littérature 2019. Et nous parlerons, dans le journal de la dispute ouvert par Lucille Como, de ses textes de non-fiction, ses conférences qui prennent des formes théâtrales et qui ont quelque peu pris une place de plus en plus grande sur les plateaux de théâtre. Nous ouvrons donc cette dispute avec la Gioia, le nouveau spectacle de Pippo Del Bono. Pippo Del Bono fait quand même une vingtaine d'années qu'on a pu découvrir, enfin pour les plus anciens, comme Philippe Chevier et moi, son travail. Moi j'ai beaucoup aimé son travail, un travail qui m'a beaucoup ému, beaucoup remué. Je me suis un peu éloigné de son travail, je précise d'entrée de jeu. Et il m'a semblé qu'à un moment donné, Pippo Del Bono tournait un peu en rond, proposait plus grand chose de pertinent. Et puis on m'a dit, il faut que tu ailles voir la Gioia, il faut le traiter dans cette émission. Donc j'y suis allé. On rappelle quand même que Pippo Del Bono, il s'est formé en passant par le théâtre classique, puis par la danse, par le théâtre oriental. Il travaillait les relations entre théâtre et danse. Il est passé notamment chez Pina Bausch à Wuppertal. Sa compagnie, elle va bientôt avoir 35 ans. Et il y a eu une rencontre majeure, celle faite avec Bobo en 96. Bobo, c'était un sourd-muet qui vivait depuis 45 ans dans un asile psychiatrique. Lorsque Pippo Del Bono l'a rencontré, il l'a ensuite accompagné dans son travail. Et après lui, d'ailleurs, d'autres personnes singulières sont venues enrichir la compagnie, comme Gianluca et Nelson, qui sont d'ailleurs toujours présents, eux. Mais Bobo, lui, est mort il y a quelques mois. Et ce spectacle, de tout début, hein, c'est Pippo Del Bono qui rentre en scène et qui dit ce spectacle renaît de la mort de Bobo.
Vorrei raccontarvi una storia. La storia dell'uomo. Non sentiva più niente al di fuori del suo dolore e si vergognava del suo dolore perché era il dolore in fondo di qualcuno che aveva tutto.
La Gioia de Pippo Del Bono, un premier tour de table, Philippe Chevillier.
Eh bien, pour moi, c'est un beau voyage vers la lumière, quand le théâtre transforme le deuil, en fait.
Marie Sorbier.
Je crois que ce spectacle est une merveille, mais au sens moyenâgeux du terme, c'est-à-dire c'est un petit miracle, quelque chose d'un peu extraordinaire.
Lucille Como.
Oui, une merveille aussi au sens presque religieux. Moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle plein de grâce.
Alors, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend au début du spectacle? Je l'ai dit, hein, première entrée, seule en scène, c'est Pippo Del Bono qui donc dit cette phrase. Mais Philippe Chevillier, est-ce qu'on peut en dire un peu plus pour donner quelques images à nos auditrices et auditeurs?
Oui, on pourrait presque d'ailleurs, si l'image n'était pas aussi forte, ne plus savoir quelle est cette image, parce qu'il y en a tellement et on est tellement assailli d'émotions que on peut avoir un moment de doute. Mais là, cette image est très simple, c'est-à-dire qu'on a un rectangle de gazon au milieu de la scène dénudé, et on va voir arriver un personnage, un jardinier avec une perruque, un ciré rouge.
C'est Nelson d'ailleurs.
C'est donc. Nelson, voilà, et avec son arrosoir bleu, si je ne m'abuse, mais je suis pas tout à fait sûr. Il va arroser ce carré de gazon qui représente, on l'imagine, une tombe, puisqu'on vient de nous parler de la mort de Bobo. Et à chaque fois qu'il arrose, il va y avoir une fleur qui va naître. Un noir va se faire, une deuxième fleur en pot. On a un véritable petit champ de fleurs qui apparaît à la fin. Et c'est la première image du spectacle. Et les fleurs, on va les retrouver, mais je ne vais pas dire la fin, comme d'habitude.
Non. Bon, il faut dire que c'est un théâtre, celui de Pippo Del Bono, qui marche par séquences, qui crée des séquences, qui crée des tableaux dans lesquels le théâtre, la danse, la musique, d'autres formes sont convoquées. Le texte aussi, bien sûr, qui est important. Marie Sorbier, pour débuter vraiment cette dispute.
Oui, moi j'étais un peu comme vous, Arnaud. J'avais eu des montagnes russes un peu avec Pippo Del Bono, que je suis avec plaisir, mais parfois certains spectacles m'avaient laissé un peu à distance, peut-être par trop. Trop d'affect, trop d'émotions ou trop de cris parfois. Et j'ai retrouvé vraiment tout ce que j'aime particulièrement chez ce metteur en scène dans ce spectacle-là. J'ai même l'impression, pour moi, je crois que c'est son meilleur, en tout cas de ceux que j'ai pu vivre en live, en vrai, j'allais dire, autre que les captations. Il m'a particulièrement touchée. J'étais dans un état où mon cerveau s'est déconnecté très vite. C'est-à-dire que je n'étais que dans le présent et dans l'affect de ce qui était en train de se passer. J'ai eu l'impression qu'il était en train de fouiller, de remuer tout un tas d'émotions, de pensées. Il était un peu maître de moi. Je me suis laissée totalement partir pendant tout le spectacle. Et c'est des sensations qu'on a pas très souvent, qui sont à la fois et agréables et désagréables. C'est pas toujours facile à vivre, mais c'est vraiment un torrent d'émotions et de poésie qui emmène, et des images. Les images sont spectaculaires. Ce qui m'a le plus, je crois, frappé dans ce spectacle, c'est l'occupation de l'espace. On l'a dit, ça part de plateau nu, et puis les images se créent. Le plateau s'habille et se déshabille dans un espèce de mouvement comme ça, de flux et de reflux permanent. Pour en donner qu'une, vous avez cité les fleurs, et puis ensuite il y a un passage avec des bateaux en papier, comme ceux qu'on fait dans les salles de classe quand on s'ennuie, et il y a ce personnage pareil qui vient les poser un après l'autre, ces petits bateaux de papier minuscules qui remplit l'espace de ces bateaux, et une fois que l'espace est rempli, il va les enlever pareillement un après l'autre. Et s'enchaîne une série comme ça d'images à la fois très simples et esthétiquement très fortes, et puis avec un sens qui est porté par la poésie de Pippo, qui lui, avec son micro qu'il prend et qu'il jette comme ça un peu impunément, nous livre des pensées très intimes de façon très directe.
Lucille Como.
Oui, c'est vraiment un personnage qui nous fait entrer à ex nihilo à l'intérieur de sa tête. Et ça, c'est une forme qu'on voit parfois, mais que je trouve assez difficile à réussir. Bon, là, en effet, il nous fait entrer à la fois dans l'intérieur de sa tête de Pippo Del Bono, mais aussi de sa tête d'artiste, et du coup, à l'intérieur de son art, puisqu'il questionne toutes les figures qu'il représente et présente, des artistes qui le suivent depuis longtemps, cette fameuse figure de Bobo qui nous suit tout le long du spectacle. Moi, j'ai beaucoup pensé à Angelika Lidl pendant ce spectacle, alors que a priori la filiation ne paraît pas évidente, dans cette manière qui, à mon avis, est en effet assez difficile de présenter par tableau une intériorité, donc de la folie, de la grande tristesse, la peur de la mort, en mettant en œuvre des tas de possibilités théâtrales, en faisant toujours confiance au théâtre pour rendre très simplement les émotions. Et je pense que c'est ça, en fait, l'impression de présent pur, d'expérience théâtrale pure qu'on a. Ça tient à sa confiance à lui, absolument inouïe, dans le théâtre. Et même les moments qui pourraient agacer, enfin, moi, j'ai très peur de beaucoup de choses. En l'occurrence, il y a un moment, quand même, un des tableaux qui consiste à faire des tas de vêtements qu'on sort de sacs poubelles sur la scène, juste après les petits bateaux en plus. Donc c'est d'autant plus fort parce que à cette fragilité, à cette beauté succède cette image qui appelle à la fois des images de camp, des images plus contemporaines de réfugiés. Et de fait, il s'agit de faire une prière pour les réfugiés. C'est dit de manière assez fugace. C'est le genre de choses qui mérissent, parce que j'ai toujours un doute sur la capacité du théâtre à prendre en charge ce type d'image. On en a beaucoup parlé avec le Festival d'Avignon. Et là, je trouve que ça fonctionne, et je pense que ça fonctionne par la sincérité pure du geste. Ça pourrait paraître égocentrique parce qu'on est dans une forme un peu de journal intime. Il attire à lui un peu tout. Donc ses émotions, son passé, sa mémoire, mais aussi des choses de l'extérieur et de l'actualité. Et ça fonctionne parce que tout est mis à équivalence sur, disons, la grande balance des effets théâtraux possibles. Donc, c'est très beau. Il y a aussi un passage qu'on peut citer. En fait, il circule en permanence entre l'espoir et le désespoir. C'est vraiment ça, la gioia, c'est comment retrouver la joie. Donc, on passe par des moments, mais vraiment d'abîme. Mmh. Et puis, des moments beaucoup, beaucoup plus gais. Et on est toujours entre la grande laideur, la maladresse, les corps imparfaits, les corps qui se lui-même est un corps assez particulier sur la scène, et des moments d'une délicatesse absolue. Il y a une danse sur Petite Fleur, sur le standard de jazz Petite Fleur, avec une jeune femme qui est habillée, c'est assez drôle d'ailleurs, elle est un peu en danseuse haïtienne, enfin elle a des fleurs partout, et lui essaye de danser avec lui, il est magnifique à ce moment-là, et c'est à ce toute petite chose de délicatesse absolue que tient la beauté du spectacle.
On continue à parler de la Gioia de Pippo Delbono avec Philippe Chevillé.
Oui, alors d'abord, ce qui m'a frappé, c'est moi, j'avais une salle où presque la moitié d'adolescents. Et ce qui était extraordinaire, c'est de voir que avant, enfin, pendant et dans les moments de silence, parce qu'il y en a, il y avait une attention incroyable. Et à la fin du spectacle, on confondu les fidèles, les théâtreux et ces jeunes dans une explosion, enfin, dans une... Ils ont aimé le spectacle et finalement c'est un spectacle qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste de Pippo Delbono pour rentrer dans ce spectacle. Comme quoi c'est vraiment un spectacle assez miraculeux comme vous disiez. La deuxième chose c'est que, voilà, vous en parliez un peu Lucille, c'est ce formidable ressort du théâtre qui fait que la tristesse peut être transformée en joie puisqu'on est quand même dans un deuil, c'est là, et d'un instant à l'autre et que la tristesse est assumée dès le départ, on ne dit pas on va l'oublier, il en parle tout le temps, il parle de sa déprime, on le voit déprimé, et en même temps on voit ces images et qui nous appellent vers la joie, vers ce bout du tunnel qu'il évoque à un moment donné. Et donc ça c'est formidable, d'autant que cette esthétique au fond, qui est un peu parfois une esthétique pauvre, rappelle cette esthétique du cirque qui est toujours... magnifique, avec quelques paillettes, la lumière, quelques beaux costumes, quelques belles couleurs, et une parade de comédiens qui sont très beaux dans leurs déplacements. Ça fait vraiment parade par moments. Et enfin, la dernière chose, moi, qui m'a... Enfin, il y en a d'autres, mais l'autre grande chose qui m'a frappé, c'est le caractère complètement composite du spectacle, et pourtant totalement organique. C'est-à-dire qu'on voit succéder des interventions parfois un peu malhabiles en français, puis en italien de Pippo Delbono. Allez, tiens, voilà... Un numéro, donc c'est un numéro, on a le numéro de travesti de Gianluca, son voisin d'un trisomique transformé en chanteuse italienne. On peut avoir une parade, on a de la musique très fort et puis on n'en a plus. Et on ne se pose pas la question de savoir si c'est bien construit ou pas, ça coule, c'est naturel. Il y a cette sincérité dont vous parliez. Et ce que vous disiez, Lucille, sur ce théâtre politique, c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé ensemble. Et je trouve que, justement, ce qui est beau dans cette mer des noyés, parce qu'il parle de mer des noyés, c'est que c'est tous les noyés. Il n'y a pas, justement, le gros clin d'œil à l'avant-scène pour nous expliquer. Et parce que, voilà, ça vient comme tout le reste du spectacle, naturellement.
Il y a une autre image très politique que je ne divulgacherai absolument pas, mais qui est autrement gonflée aussi. Lorsque l'un des personnages viendra à l'avant-scène, et je n'en dirai pas plus, soit vous souvenez bien, soit vous irez le voir. En tout cas, c'est un homme plein de lumière, et c'est autrement gonflé. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, le cirque, c'est vrai qu'on y pense, mais aussi au musical, il y a quelque chose qui est de l'ordre du battleur chez Pippo Delbono, du Monsieur Loyal aussi. Ce loyal très particulier, parce qu'on a quand même une succession, c'est vrai, de numéros, de tableaux.
Comme le cabaret, en fait.
Comme le cabaret musical, le cirque, enfin, c'est un peu tout ça. Mais c'est vrai qu'on a entendu, comme vous l'avez bien expliqué, il y a plein de formes qui sont convoquées. Alors, on pourrait dire, oui, ça peut ressembler à telle ou telle chose. Mais ce qui est assez, alors, miraculeux, je ne vais pas employer ce vocable un peu trop religieux pour moi, mais extrêmement réussi, c'est la façon dont en effet il s'enchaîne, la fluidité qui fait que ça met le spectateur, et ce que disait Marie Sorbier, dans un état de réceptivité très particulier. Et c'est ça que faisait il y a déjà longtemps Pippo Delbono, mais que là pour moi il retrouve vraiment, et ça nous emmène vers des émotions qui sont quand même pour le dire vite, on passe du rire aux larmes très vite avec ce spectacle-là, parce que tout d'un coup, il va sortir une bêtise, une blague, et la seconde d'après, ça va être quelque chose qui va nous ramener vers sa dépression. Enfin, c'est un spectacle qui passe d'ailleurs extrêmement vite, c'est pas très long, c'est certes 1h20, mais enfin, on voit des spectacles qui font 1h20 qui paraissent en durée 12. Ça va très très vite. C'est aussi la question du rythme et de la séquence, mais on va parler tout à l'heure de Bob Wilson, qui fait à peu près la même durée, c'est pas la même durée de ressenti, mais j'anticipe un tout petit peu. Lucie, mais comment
vous disiez miraculeux, c'est aussi un bon mot en dehors de ce que ça peut exprimer sur la, justement, à mon avis, le fonctionnement de la fluidité. C'est-à-dire qu'en effet, ces tableaux sont très différents, mais l'enchaînement procède. Bon, il y a quand même cette cohérence un peu de très, très archaïque de la structure cyclique, puisque le printemps revient. Enfin, c'est quand même une histoire de saison qui passe et qui repasse. Et ce caractère très archaïque-là, il est assez religieux. Moi, j'ai beaucoup pensé à des psaumes, en plus, comme c'est très musical et que la trajectoire qu'on fait avec Pippo Del Bono et celle de la consolation, j'ai vraiment beaucoup pensé à ce type de structure, disons religieuse, spirituelle en tout cas, et qui touche en effet du coup à des émotions extrêmement primaires, voire primitives, et c'est aussi pour ça que tout le monde se retrouve, je pense, à peu près à égalité et dans le même état face à ce type de spectacle. C'est que ça touche à quelque chose d'assez archaïque en nous.
Marie Sorbier.
Oui, deux choses. Sur l'importance de la musique dans ce spectacle, qui est une musique alors extrêmement éclectique, hein, puisqu'on passe, comme vous l'avez dit, de la variété italienne à des airs opératiques, à de la musique religieuse. On a plein de choses. La musique est très forte, donc ça fait partie aussi de...
Entre les Calidelles, là, pour le coup.
Exactement, et puis de l'enveloppement. On est complètement pris. Je peux comprendre qu'il y a un rejet total de ce spectacle. Je pourrais comprendre qu'on puisse pas ne supporter, parce que comme tout est un peu dans l'excès, soit on y rentre, je pense, dans les 5 premières minutes, soit on doit trouver ça totalement abscon et superlatif en tout point. Mais une fois qu'on y est, c'est quand même un spectacle baume. Je trouve que c'est un spectacle qui soigne. C'est-à-dire, lui se soigne. On est dans une thérapie commune où il nous expose son mal-être. Le passage sur la dépression, l'image sur la dépression, où il est emprisonné à l'intérieur de lui et sur le plateau, et je trouve à la fois très simple et très juste, et puis la scène finale qui reprend toutes ces schèmes d'images-là et qui libère est assez belle. Et la deuxième chose, c'est un passage incroyable sur le lien avec le public, chose que je pourrait mais détester dans tout autre spectacle, c'est-à-dire qu'il vient, il sort de le quatrième mur n'existe pas pour lui en tout cas, puisqu'il navigue très volontiers du plateau à la scène, il descend et il vient chercher les spectateurs et leur dire dans les yeux, mais elle est où la joie, elle est où ta joie, et il y a un truc, il hurle dans ce micro, il vient te chercher avec en effet ce physique un peu particulier où quand il arrive devant toi, on a tendance à se reculer.
Il attend certainement pas de réponse.
Personne ne répond.
Moi j'ai vu quelqu'un qui levait la main, il lui a fait un petit signe,
ah oui,
il est reparti.
Donc c'était pas le sujet.
C'est pas le sujet.
Et c'est très beau cette façon dont il vient chercher et qu'il regarde dans les yeux le public avec cette question assez fondamentale qui l'anime.
Mais ça, c'est des choses qu'il avait fait dans le précédent spectacle, pas toujours avec le même bonheur, parce que c'est vrai que j'ai des souvenirs plus pénibles de quand ça marche pas, ce système-là, quand ça tape à côté ou que le sujet n'est pas vraiment ressenti. Là, il est fortement ressenti. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça soigne ou que ça guérit. Je suis admiratif, mais un tout petit peu extérieur. Comme ça mettra un peu de bémol, parce qu'on a l'air de tous dire que c'est le spectacle
du
siècle.
C'est la messe.
Donc moi, je n'adhère pas complètement. Philippe Chevillier.
Non, mais l'aspect curatif, non, mais c'est vrai, je pense quand même que c'est un bon exemple de spectacle dont on sort en se disant, oui, l'art vivant peut transformer, vous transformer. Quand on a vu, par exemple, des spectacles précédemment qu'on a moins aimés, je parle pour mon cas personnel.
Oui, vous avez une rentrée difficile.
et d'un seul coup, de se dire, bah oui, voilà, c'est pas seulement la beauté d'un moment, c'est aussi l'expression de la plus grande des douleurs, qui est quand même la mort, le deuil, et le fait de se retrouver tout d'un coup transformé en être presque joyeux. Et dès l'image d'ailleurs de départ dont on parlait, de la tombe, il y a une joie en même temps, on oublie presque que c'est une tombe. Et puis encore une fois, je voudrais insister sur les comédiens qui sont merveilleux, parce que alors on parle de leur passé, de leur handicap, de leur condition de clochard, mais sur scène c'est des princes, et puis c'est des personnages de cirque rutilants, chatoyants, avec les paillettes et tout, c'est formidable, ils sont beaux.
Marie Sorbier.
Un dernier mot juste pour
petite lecture.
Dire que, oui, il y a des extraits du texte qui est dit sur scène qui ont été publiés chez Actes Sud, un livre qui s'appelle Pippo Del Bono, Le Don de Soi, qui a été publié en 2018. Et on retrouve des passages du texte qui dit notamment le passage du singe, qui est assez étonnant. Et plein d'autres petits verbatims, quelques photos de spectacle. Et c'est un bon accompagnement de spectacle.
La Gioia, création de Pippo Del Bono, jusqu'au 20 octobre au Théâtre du Rond-Point à Paris. Puis, alors, où est-ce qu'on en est ? Puis, ce sera Genève. Genève, à la Comédie de Genève du 20 au 24 novembre, à Villefranche-sur-Saône, 27 novembre. Ça passera par l'Italie, à Pordenone, le 30 novembre. Puis retour en France, Marseille, les 3 et 4 décembre, Merlan. 6 et 7 décembre au Théâtre Molière à 7. 10 et 11 décembre aux deux scènes de Besançon. 13 décembre à la Finature à Mulhouse. 17 et 18 décembre à Bonlieu, scène nationale d'Annecy. Et puis chez nos amis belges aussi, au Théâtre Royal Flamand à Bruxelles, du 8 au 10 janvier. Puis de nouveau en Italie, puis en Espagne. Longue tournée pour cette Gioia. À suivre dans la dispute, un autre spectacle qui va aussi pas mal tourner, Jungle Book de Bob Wilson. Il y aura un coup de cœur de Marie Sorbier pour Peter Handke, et puis un journal de la dispute tenu par Lucille Comeau.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Jungle Book et cette question, une conjonction de talents fait-elle un grand spectacle? Vous avez 15 minutes. Pour le savoir, nous sommes allés voir cette adaptation du livre de la jungle, cette adaptation par le mondialement reconnu Bob Wilson, qui retrouve pour l'occasion le formidable duo Coco Rosie, avec qui il avait déjà créé un spectacle autour de Peter Pan il y a quelques années. Coco Rosie qui signe une nouvelle fois une partition originale jouée en live, grand livre, grand metteur en scène, grande musicienne. Tienne égale nos réponses après cet extrait. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah.
Now, this is the law of the jungle. As old and true as the sky. And the wolf that should keep it may prosper. But the wolf that breaks it must die. As the creeper, the god of the tree trunk. The lamb and that fall will come back. For the shape of the pack is the wolf, and the strength of the wolf is the pack. For the strength of the pack is the wolf, and the strength of the wolf is the pack. Wash daily from nose deep to dirty, drink deeply but never too deep. And remember the night is for hunting,
and forget that the day is for sleep.
The jackal may follow the tiger, but step with the whiskers and grown. Remember,
the wolf is a hunter.
Go forth and get food on thy own. It's the law of the jungle. It's the law of the jungle. It's the law of the jungle. It's the law of the jungle.
Jungle
as old and true as the sky, and the wolf that would seem to prosper, but the wolf
that breaks
it must die.
Yeah.
It's the law of the jungle. It's the law of the jungle.
La loi de la jungle, Jungle Book, premières impressions sur ce spectacle, Marie Sorbier.
Un spectacle efficace dans la forme, mais qui, moi, m'a passablement ennuyé.
Philippe Chevillet.
Un spectacle frais et coloré pour petits-enfants et grands-enfants d'un jeune homme de 78 ans.
Lucille Comeau.
Je dois faire partie ni des petits ni des grands-enfants, alors du coup je ne sais pas où
vous avez 79 ans.
Non, moi j'ai vraiment trouvé, j'étais extrêmement déçue. Je trouve que c'est un spectacle indigent.
Marie Sorbier, une description de la scénographie, et puis nous expliquer un peu de quel type d'adaptation il s'agit avant qu'on entre dans la dispute véritablement.
Oui, alors quand nous entrons dans la salle du 13e art, le rideau est fermé, c'est un rideau un peu patchwork, avec des bouts de tissu donc assemblés, et le mot jungle en lettres de lumière qui apparaît comme ça sur le rideau. La musique commence, le rideau s'ouvre, et là on a un plateau, j'allais dire très wilsonien, donc quasi nu, avec une coursive, une mezzanine en milieu de hauteur pour faciliter des déplacements comme ça sur deux niveaux. Quelques éléments de décor qui seront amenés et retirés au fur et à mesure de la dramaturgie. Et puis, tout tient évidemment sur la scénographie, sur les lumières, comme habituellement, avec un fond, donc un fond de scène qui oscille entre les bleus nuits et les verts de la jungle et qui accompagne également, qui permet le découpage de ces personnages principaux en ombre chinoise, scène qui reviendra aussi plusieurs fois pendant le spectacle. Dire que les animaux, les acteurs animaux, donc, sont symbolisés non pas par des costumes entiers, mais par des attributs. Donc, le conteur, l'éléphante, a des grandes oreilles, mais sinon est habillé en robe. Et puis, Shere Khan a des longues griffes. Voilà, donc, on est plutôt sur des citations d'animaux que des animaux vraiment personnifiés sur scène. Quant à l'adaptation, elle est assez minimale, assez libre en tout cas par rapport aux nouvelles de Kipling, assez elliptique. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le texte est réduit à sa plus simple expression. Donc c'est cette fameuse éléphante qui va nous raconter une histoire. Et puis, souligné par les chansons, qui aussi évidemment racontent une suite d'histoires, mais les chansons sont en anglais et le texte est en français. Donc on a comme ça aussi une rupture de discours.
Les chansons ne sont pas surtitrées.
Ils ne sont pas surtitrés. Donc les enfants qui étaient autour de moi ont eu un peu de mal parfois à suivre, eu égard aussi à l'adaptation elliptique, parce qu'on n'est pas forcément dans un récit totalement filé. Avec, c'est quand même finalement une adaptation sans morale, assez sombre, j'ai trouvé, où on ne sait pas finalement ce Mowgli, on ne sait pas où il va aller entre la jungle et les hommes. Il ne trouve aucun refuge à la fin.
Alors, on va commencer par le plus positif pour l'heure, Philippe Chevillé, sur ce spectacle Jungle Book.
Alors d'abord, oui, je parlais de fraîcheur, de couleur. Il y a des images assez simples, sobres, lumineuses, comme d'habitude. Les attributs, c'est ce que vous disiez, il n'y a pas de grands costumes, on a des masques.
Bagheera quand même.
Bagheera, et voilà, mais c'est juste pour moi ce qu'il faut. Faut souligner aussi la fraîcheur des interprètes. On n'est pas, c'est pas le Berliner là, hein. C'est pas Madame Huppert. C'est donc 6000 jeunes qui ont été sélectionnés, 7 niveaux de sélection, et pour moi il y a quand même des révélations dans ces...
La nouvelle star là que vous nous racontez, Philippe.
Oui, oui, non, mais non, parce que c'est important ce que je vais dire, parce que je pense que ce spectacle-là est un... Je sais pas s'il y en a eu beaucoup c'est le premier que je vois avec des jeunes, si on veut, presque des débutants, et donc c'est le principe. C'est-à-dire que c'est un spectacle, c'est pas comme Peter Pan qui était un spectacle, qui était un conte. Là, c'est un spectacle quand même vraiment qui assume son côté jeune public. Donc, il faut voir cette fraîcheur dans le spectacle. Et moi, je l'ai trouvé intéressante. J'ai trouvé qu'il y avait parfois... encore des maladresses sur scène parce qu'il n'était pas tout à fait rodé dans cette salle aussi qui est un peu froide du 13e art, on peut le dire.
L'acoustique notamment.
Pas de retour micro, donc
réglages, hein.
C'est pas facile pour chanter, mais que néanmoins, ils arrivent à bien se couler dans le moule de Bob Wilson. Et je pense que Bob Wilson, en tout cas c'est ce qu'il raconte autour, c'est qu'il a aimé se retrouver avec justement ces jeunes un peu frais, un peu nouveaux. Moi j'y ai vu des personnages qui sont, évidemment on connaît déjà Yu Ming-hae, qui joue Mowgli, qui est cette image de à la fois de fragilité, de force, androgyne. C'est vraiment un choix qui, à mon avis, est très fort. On a aussi Olga Mouak qui fait Bagheera, justement, qui chante très très bien et qui a vraiment un charisme. De même que la diseuse, que la narratrice Orordéon, qui joue la petite éléphante Hati. Moi, j'ai plutôt trouvé la musique de Coco Rosie assez marrante, parce qu'elle c'est un melting pot de tous les styles américains. Et je pense que sur le fond, alors le texte, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il n'y en a jamais beaucoup chez Bob Wilson. Dans certains spectacles, Peter Pan n'y en avait pas beaucoup, et il y a des spectacles plus elliptiques et plus énigmatiques. Moi, je crois quand même que sur le fond, il y a un discours par rapport à Rudyard Kipling qui défendait quand même l'homme plus que la nature. Là, on a un discours qui se veut plus équilibré, et d'où d'ailleurs l'extrait sur le petit phoque. À un moment donné, on quitte la jungle et on se retrouve sur la banquise.
Ah, j'ai rien compris, moi. Coup, les bébés phoques, là.
C'est aussi de Rudyard Kipling. C'est pour nous raconter.
Oui, mais au milieu.
C'est pour nous raconter justement. Insister sur la défense de la nature, des animaux, etc., mais de façon assez soft, hein, puisque ça s'adresse encore une fois plutôt à des enfants. Donc moi j'ai trouvé ça charmant et moins corseté, bien que j'ai aimé ce spectacle avec Isabelle Huppert, Marie Said What She Said, mais je trouve que c'est pas un spectacle corseté, qu'il a vraiment une liberté qui est assez sympathique, et voilà pourquoi j'ai aimé Jungle Book quand je l'ai vu à Luxembourg et quand je l'ai vu à Paris.
Alors celle qui a donné tout à l'heure un premier point, le moins positif, on va dire, que c'est sans conteste Lucille Comeau. sur Jungle Book.
Oui, alors bah, je prends là où vous avez laissé Philippe sur la question du texte et sur l'adaptation qui en est faite. En fait, moi, je crois que j'ai même pas vraiment vu d'adaptation et pourtant, j'ai essayé de m'accrocher. C'est-à-dire qu'au départ, on peut croire qu'il va éclater totalement la temporalité, par exemple, de l'histoire, commencer plutôt par la fin et faire une sorte de retour, pourquoi pas, mais très vite, en fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas. De la même manière, ces allusions à une sorte de... C'est vrai que ça pourrait être ça, hein, d'ailleurs, le livre de la jungle, une fable écologique, ça, c'est assez bienvenu. Donc il y a aussi un passage où il y a des carcasses de télévision qui sont amenées sur scène et qui, pour le coup, tranchent avec le système wilsonien habituel, donc qui remplissent un peu la scène, où on peut imaginer, du coup, quelque chose d'une catastrophe civilisationnelle majeure, enfin d'un récit post-apocalyptique. Tout ça, je trouve que c'est vraiment du domaine du gadget et ne propose, en tout cas, à mon sens, jamais vraiment une interprétation du texte. Donc on se raccroche à ce que c'est censé être, à savoir du pur divertissement. Et après tout, pourquoi pas ? Moi, je pense qu'il y a déjà un gros problème avec cette option, c'est que du pur divertissement sur le livre de la jungle, bah en fait, il y a le dessin animé. Et que le film de Walt Disney, c'est un film qu'on a tous en tête, que les enfants ont tous en tête, toutes générations confondues, que c'est aussi un film musical avec une musique qui est quand même autre chose, des voix un peu jazz, pop, rhythm and blues, qui sont aussi autre chose, et que la comparaison, elle, c'est impossible de ne pas la faire. Donc déjà, ça, je comprends pas bien où se place la pièce par rapport à cette immense imaginaire qui écrase tout. Après, je pense qu'il y a une grande incompatibilité entre la fraîcheur revendiquée, qui est pourquoi pas, de même que les décors un peu rapiécés, le côté un peu à l'arrache, et le système Bob Wilson. Bob Wilson, si c'est pas ultra carré, si les micros sont pas coupés exactement au bon moment, si la musique n'est pas parfaite, si la lumière n'est pas raccord, si les corps ne sont pas exactement au bon endroit au bon moment, en fait, ça ne fonctionne pas. Et c'est là qu'on voit que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les interprètes, vraiment, je ne les remets pas du tout en cause. Je pense qu'ils font absolument tout ce qu'ils peuvent et qu'ils sont bons. Sauf que ça ne fonctionne pas dans le système Bob Wilson. Et le pire, c'est que du coup, tout ce qui fait Bob Wilson, pour moi, c'est du tic. C'est-à-dire que toutes les faces extrêmement crispées qu'on connaît de Bob Wilson, très grimaçantes, en pose, alors on ne comprend pas ce que ça vient faire là. Il y a des moments de répétition du texte, comme dans Einstein on the Beach, en mode musique répétitive, qui tranche complètement avec l'option divertissement pop R&B de la musique. Et puis bon, je peux y revenir, mais vraiment pour moi, là, c'est le pire, c'est vraiment la musique. C'est pas tant le spectacle et pas les interprètes, c'est la musique. Là, vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé avec Coco Rosy, qui est plutôt... Voilà, que j'estime plutôt, là, j'ai pas compris.
Marie Sorbier.
Oui, moi j'ai trouvé ça assez ennuyeux, parce qu'en effet, on retrouvait tous les archétypes de Bob Wilson, qu'on connaît bien, parce qu'on voit quand même souvent.
Ou pas, il y a des gens qui découvrent.
Même si on découvre, on même... voit mal, alors c'est
oui,
dommage.
Alors du coup, si on découvre, je sais pas ce qu'on voit. Parce que les archétypes, les grognements, les figures en effet comme ça grimaçantes, posées, qui n'ont pas un sens fou, en tout cas je l'ai pas vu dans cette adaptation-là, qui ne font pas rire les enfants et pas sourire les parents. C'est pour ça que moi j'étais dans un entre-deux en disant mais je vois même pas comment les enfants peuvent s'accrocher à cette histoire. En tout cas, ceux autour de moi étaient un peu perdus, notamment pour cette histoire d'anglais, mais aussi parce que il y a rien pour s'accrocher vraiment. Esthétiquement, j'ai trouvé ça très daté. Alors, je crois que c'est une lassitude peut-être, mais j'ai pas été époustouflée, j'ai pas été émerveillée par aucune scène finalement, même aucun effet, alors que je peux être bonne cliente sur certains effets de lumière. Là, j'ai eu l'impression de les avoir vus mille fois et que ça n'avait pas vraiment de sens, ou quand ça en avait, c'était vraiment évident. Donc une mise à distance, mais alors très rapide, et du coup un ennui assez terrible.
Alors c'est vrai que bon, musicalement on pourrait y revenir, moi je suis un grand fan de Coco Rosy, alors là vraiment j'ai trouvé ça navrant d'un point de vue strictement musical, et y compris d'ailleurs les interprètes qui sont dans la...
Oui, arrangement, la petite, interprétation.
Arrangement, interprétation, bon ça n'allait pas au-delà de l'acoustique, hein. Je crois qu'il y a vraiment un problème de d'écriture, mais vous disiez tout à l'heure, Philippe Chevillier, que c'était pas corseté. On pourrait dire que c'est pas assez corseté, parce qu'il me semble que je reviens sur le choix de Yu Ming-hae, qui me semble effectivement, et qui me semblait avant de le voir un bon choix, et je crois que ça l'est encore. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait que l'interprète donc qui joue le rôle de Mowgli qui avait été dans ce corset wilsonien, parce que alors lui, chacun de ses déplacements, chacune de ses mimiques dont parlait Lucille Como sont extrêmement précises, mais autour de lui, bon, bah, ça danse comme un spectacle de patronage, parce que on leur a dit de faire ça, hein. Je ne remets pas ça non plus en question, mais du coup, ce décalage, moi, j'ai ressenti à cet endroit-là, parce que la partition de Mowgli, elle est extrêmement claire, elle est, je pense, bien tenue, mais dans cet ensemble, alors musicalement, en plus, qui lui-même flotte, il y a un entre-deux, je me demandais Quel type de spectacle j'étais en train de voir? Vous entendez cela, Philippe Chevillet?
Oui, j'entends vaguement. Mais je pense qu'il faudrait qu'en fait...
je veux parler plus fort, sinon.
Non, je pense qu'effectivement, on va attendre la version de Claude Régis, de Jungle Book, qui sera sans doute plus
Il n'y aura plus que Mowgli. Seul, immobile, éclairé au LED.
Non, mais sans
c'est celle de Romeo Castellucci, bien sûr, qui sera à Garnier en 2024.
Moi, j'ai pas eu la même vision, parce que moi, j'ai trouvé que les enfants autour de moi, ils avaient l'air vachement contents.
Ah bah, moi, j'en avais qui comprenaient rien non plus à côté de moi.
Oui, mais alors je pense que c'est plus parfois...
Qui râlaient à la sortie.
Alors pour l'anglais, c'est plutôt parfois les parents qui comprennent moins
pas
bien.
Pas seulement
parce que les enfants sont habitués à entendre des chanteurs en anglais. Je vous trouve très dur sur la musique, parce que moi, il ne me paraît pas qu'écouter Coco Rosie, dès le premier album, j'ai pas l'impression qu'on soit dans une révolution au niveau musical. Et ce qui est amusant...
Ah non, c'est au contraire, c'est une dégringolade au niveau musical.
C'est de piocher, on n'est pas dans une œuvre musicale d'une force inouïe, mais c'est de piocher dans des cycles, de faire des petites ritournelles. Et je trouve que c'est assez bien dosé. Et pour le reste, encore une fois, c'est un spectacle qu'il a voulu faire pour les jeunes, et on n'est pas, c'est encore une fois, c'est pas le Berliner. J'ai vu, et contrairement à ce que vous dites, Lucille, moi j'ai vu des spectacles de Bob Wilson où on avait des interprètes qui étaient, encore une fois, je le répète, même si j'ai beaucoup aimé ce spectacle, mais le soir où j'ai vu Isabelle Huppert dans She Said What She Said, elle ne savait pas son texte.
Oui, moi aussi, je suis d'accord.
Et donc ça, et voilà, donc je trouve très sévère avec un spectacle de jeunes par rapport à un spectacle, voilà.
Oui, mais on nous vend Jungle Book, Bob Wilson,
vous avez
le texte de She Said What She Said avait une ambition, et Marie-Céd, je vais y arriver, ouais. Avait une ambition, et moi, j'ai pas trouvé ça du tout extraordinaire. Et là, il faut pas s'attarder trop sur le texte, surtout du livre de la jungle. Mmh. Encore une fois, une version assez mélancolique, assez sombre, c'est comme vous dites. Moi, je crois que, à la fin, c'est plutôt l'idée que, c'est une forme de communion avec la nature, qu'il a pas encore rencontré l'amour, mais la fleur qui tombe, il va la rencontrer. Ça se veut un peu comme ça, un peu triste, mais un peu gai en même temps. C'est pas la joie. C'est autre chose, hein. Mais franchement, je vous trouve sévère avec un spectacle qui est divertissant. Et après tout, le divertissement, vous avez quand même l'air de dire que c'est embêtant que ça soit juste un spectacle de divertissement.
Mais non, j'aurais aimé que ce soit divertissant, en fait.
Non, c'est un faux procès. On reste sur une parole positive de Philippe Chevillet, même si son argument, le dernier cité, était d'une mauvaise foi.
En fait, un peu de mauvaise foi aussi.
On aime être diverti absolument par du bon divertissement. Jungle Book, c'est jusqu'au 8 novembre au Théâtre de la Ville, dans cette salle, donc 13e. Art, Place d'Italie. Ensuite, on pourra notamment voir ce spectacle du 22 au 24 janvier à la Comédie de Clermont-Ferrand. Et puis, il y a d'autres dates en Europe, à Manchester, à Anvers, Polten. Je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est ça, Polten. C'est en Allemagne, en tout cas. Jeudi, deux prix Nobel, et non pas un, mais bon, ça c'est une autre histoire. Suite 2019, prix Nobel de littérature, c'est Peter Handke. Marie Sorbier avait envie d'en parler ce soir dans son coup de cœur.
Oui, j'avais envie d'en parler parce que j'ai quand même l'impression que les textes de Peter Handke nous accompagnent souvent au théâtre, et que c'est un auteur majeur, contemporain majeur. Et je voulais commencer juste par une anecdote, j'ai eu la chance de le rencontrer dans des circonstances étonnantes. Il m'avait donné rendez-vous place du Châtelet dans un café. Il neigeait ce jour-là et il est arrivé complètement recouvert de neige avec des chaussures de montagne, trempé jusqu'aux os. Et je l'accueille en lui demandant s'il y a eu un problème avec sa voiture ou avec le métro, je ne sais pas comment il est arrivé là. Et il m'a expliqué qu'il venait toujours à pied, il habite en banlieue parisienne et qu'il était venu pour ce rendez-vous à pied. Donc il avait marché plus de 2 heures pour arriver jusque dans le centre de Paris à pied. Et que pour lui, c'était dans ces temps de marche qu'il avait l'impression d'approfondir les mots qu'il écrivait et sa pensée.
Jacques Roubaud fait pareil.
Exactement. L'éloge de la marche et de la lenteur. Et ça m'avait beaucoup marqué, parce que le rendez-vous après avait commencé par un grand moment de silence où il regardait les flocons tomber de la vitrine du bar. Donc j'ai relu ensuite tous les textes et puis toutes les mises en scène que j'ai vues après avec cette couleur-là, cette couleur de la lenteur et de la profondeur. Je voulais juste citer 3 textes qui, moi, m'ont beaucoup marqué dans mon parcours de spectatrice. Peut-être Outrage au public en premier, qui est une de ses premières pièces, qui date de 1966, qui est devenue pour beaucoup de jeunes compagnies un manifeste de ce que peut être le métathéâtre. Alors c'est une pièce assez étonnante où, en gros, les acteurs insultent le public. façon assez directe, en front de scène souvent. Et le texte est totalement jouissif à lire et à écouter, c'est un texte formidable. La chevauchée du lac de Constance, qui est montée par Régie notamment.
Alors Gérard Depardieu, on aurait bien aimé y être. Hein.
Gérard Depardieu, Michael Lonsdale, ouais. Bulogier, une distribution qui fait complètement rêver. Malheureusement, moi je n'ai vu que des images. Pas vu. En vrai, mais ça fait partie des grands...
Tu n'étais pas née, hein, Marie.
Je n'étais pas née. Presque pas, c'est vrai.
Presque pas.
Et puis, par les villages. Alors, par les villages, Régie encore. Et puis quand même, Stanislas Nordet dans la cour d'honneur.
voilà. Pardon, j'ai un truc dans la gorge.
Ben, allez-y.
Non, je plaisante.
Mais qui est quand même une pièce incroyable du répertoire. Je ne l'ai pas vu non plus monter par Régie, uniquement par image, mais je l'ai vu par Stanislas Nordet et Drote. Et c'est des pièces qui, moi, me marquent beaucoup, que j'ai toujours l'impression de ne pas comprendre tout à fait. Il faut que j'aille vite, je vais vite. Et donc, les académiciens suédois ont tenu à célébrer l'un des auteurs en langue allemande les plus lus et les plus montés, ce que je ne savais pas, qui est aussi un écrivain prolixe, puisqu'il a produit plus de 80 œuvres, dont 15 pièces de théâtre, mais beaucoup de romans, d'essais et puis de scénarios de films, notamment avec Wim Wenders, qui a été l'un de ses partenaires artistiques au long cours. Le prix Nobel a été un peu accompagné d'une polémique, puisque Handke a eu des positions pro-serbes et puis a défendu Milosevic pendant des années, et puis je crois qu'il s'en est jamais dédié. Donc,
jamais.
Voilà, donc il y a toute une partie aussi de l'intelligentsia qui est quand même marquée par cette prise de position-là et qui a une dent contre Handke et qui donc résiste. Et ce Nobel, je crois, a été aussi tardif parce que l'Académie devait quand même résister à toute cette tension autour de ces prises politiques-là. Mais je crois que tous, et malgré ça, reconnaissent quand même en lui un auteur majeur et que c'est quand même chouette de pouvoir le célébrer aujourd'hui. Au théâtre et puis dans ses livres.
Et on ira voir sa nouvelle création en janvier à la Colline, montée par Alain Françon, vieux partenaire aussi de Peter Handke.
Les Innocents, moi et l'Inconnu au bord de la route départementale. Création en mars 2020 à la Colline.
Mars, oui, voilà. C'était janvier. Voilà pour ce coup de cœur qu'on ne commente pas parce que c'est le coup de cœur. Hein. Sinon, on aurait pu le commenter. Et j'en profite pour... alors, il n'a pas eu le prix Nobel, mais le prix Goncourt. Pascal Quignard, il sera en concert fiction ce samedi à la Maison de la Radio à Paris. Les Enfants du Marais, c'est donc en public. C'est musical, il sera lui-même récitant du texte qu'il a écrit. Suzanne Giraud en signe la musique originale inédite. Ce sera réalisé par Sophie Haute-Picon et on peut assister, bien sûr, à ce concert fiction. Il faut réserver sa place en allant sur le site maisondelaradio.fr. C'est donc l'heure d'ouvrir le journal de la dispute tenue, comme vous le savez, sa rédactrice en chef étant Lucille Gaumont, et ce soir elle nous propose un vaste fourre-tout,
la conférence. C'est bien ça pour
c'est
un journal, non ?
C'est le côté culinaire, non, c'est la conférence performance.
Oui, c'est l'avantage d'être rédac chef, mais d'avoir pas de rédaction.
Voilà,
on peut faire absolument ce qu'on veut. Alors on peut par exemple feuilleter le programme du Théâtre des Amandiers de Nanterre. Vous trouverez en décembre l'annonce d'une conférence performance, donc je cite, intitulée Moving Earth, avec deux noms principaux au générique, Frédéric Haït-Touati et Bruno Latour. Alors, si la première est metteuse en scène, rien de surprenant donc à lire son nom dans le programme d'un théâtre, le second est philosophe, scientifique et néanmoins régulièrement associé aux Amandiers depuis 2014. Moving Earth s'est présenté comme un spectacle qui doit remettre en question, je cite, « nos idées reçues concernant la planète, cette terre que nous habitons comme nous marchons dessus presque sans y penser ». Dans un article récent paru dans une somme intitulée « Les théâtres documentaires », la chercheuse Clarisse Bardiot liste ces événements qui fleurissent sur les scènes de théâtre sous le titre « Ceci n'est pas un spectacle » ou « L'essor de la conférence-performance ». Elle fait remonter cet essor à la fin des années 2000 et tente à la fois d'en recenser divers cas en Europe et d'expliquer leur succès. Constatant d'abord que ladite forme vient plutôt des lieux consacrés aux arts plastiques, elle en fait la forme d'une hybridation triple entre le théâtre, la performance et le monde des idées. Je me pose moi-même régulièrement la question de ces formes et de leur caractère théâtral, mettant probablement à tort dans le même sac des spectacles qui jouent avec la performance au sens plastique et critique, comme le travail par exemple de Joris Lacoste, les spectacles qui émanent d'intellectuels jouant à fond le jeu du théâtre classique, le cas par exemple des incursions de l'économiste Frédéric Lordon dans le champ, ou encore les velléités spectaculaires de grandes figures non théâtrales, comme par exemple l'avocat star Dupont-Moretti, qui s'essayait récemment au seul en scène au Théâtre de la Madeleine. Je suis assez fière d'avoir caler Joris Lacoste, Frédéric Lordon et Dupond-Moretti dans la même phrase. Pour expliquer ce succès...
Vous faites plaisir, c'est les sons.
Voilà, c'est ça. Pour expliquer ce succès, Clarisse Bardio effleure quelques arguments. Celui économique, d'une proposition qui coûte peu en termes de scénographie et de personnel, mais qui attire tout un public, le même qui se presse dans les cours du soir de toutes les universités de France et dont la moyenne d'âge est à peu près la même que celle des salles de théâtre. Il y a aussi que cette forme simple en bien des cas peut s'assimiler à celle du one-man show, recette d'un succès assuré, pas forcément assumé dans le théâtre public, qui verrait dans la conférence performance, parfois autobiographique, un vernis intellectuel satisfaisant pour une forme dans le fond possiblement boulevardière. Plus intéressante à mon avis est cette idée avancée par Clarisse Bardio, selon laquelle la conférence performance serait une des formes privilégiées et montantes d'un théâtre qui entend délivrer un savoir, démontrer plutôt que montrer, vous me voyez venir, j'en reviens à ma marotte favorite, la dérive du théâtre français dans sa propre ambition à apprendre aux spectateurs à bien vivre. Des arguments qui peuvent entrer en contradiction, mais qui n'annulent pas cette réalité d'une présence de plus en plus manifeste des idées sur scène, des idées nues. Comment l'interprétez-vous ?
Ah, c'est ça la question.
Oui, oui, parce qu'il y a quand même une question.
Quelle chute ! Bon, qui s'en empare ? Philippe Chevillé, tout sourire.
Ah bah Lucille, tout est dit. Non, vraiment, moi, je suis pas spécialiste finalement.
Enfin, moi non plus. Hein,
j'ai essayé de chercher. Moi, je me suis dit d'abord, première chose, il faut être positif. Tout peut faire théâtre et pourquoi pas des conférences, hein, pour peu que ça soit bien fait, réussi. Et au service d'un autre art, ça peut être intéressant. Ça peut rendre l'art plastique peut-être plus vivant, le communiquer plus directement, donner des mots à la danse, de la magie à la science, pourquoi pas. Et ça m'inspire l'idée que le théâtre est quand même magique parce qu'il suffit d'un rien, d'une chaise, d'une personne dessus et même qui dit des choses parfois un peu savantes, si c'est bien éclairé, s'il y a un effet pour que ça devienne quelque chose de magique et de théâtral. Moyennant quoi, je suis pas très emballé par le principe. Je préfère le théâtre minimal plutôt que le théâtre à minima. Et déjà que parfois je trouve que des expériences de théâtre documentaire sont un peu ennuyeuses, là je me dis qu'on peut un peu toucher le fond si c'est raté. Et en plus, moi je suis un peu... C'est l'époque, on est un peu saoulé par les propos, les jargons d'experts, des spécialistes qu'on entend tout le temps. Donc la conférence améliorée, ça me tente guère. Alors, sauf si elle bascule dans un vrai théâtre. Et là, ça peut devenir intéressant. Alors, on avait parlé ici de H2 Hébron de Ruth Rosenthal. J'avais pas adoré, mais néanmoins, c'était un objet théâtral. Elle l'avait transformé en objet théâtral. Elle parlait de la situation des Palestiniens. Et donc, c'était vraiment un objet théâtral. Et puis, moi, j'ai un souvenir absolument magique d'un spectacle qui s'appelait La Mission. Je sais pas, j'ai trouvé ça dans mes, c'est de 2010, de David Van Reybroek. Et qui était la fausse conférence, là, pour le coup, d'un père blanc missionnaire depuis 50 au Congo belge, et qui racontait un peu sa vie là-bas, et puis tout d'un coup l'horreur de la guerre sur le territoire, et ça se terminait par un effet spectaculaire, et c'est un des spectacles qui m'a le plus marqué, mais c'était un prétexte. Donc, voilà, pour le reste, moi je préfère le théâtre qui détourne la conférence que l'inverse, du théâtre un peu faire-valoir d'idées, mais encore une fois, je demande à voir s'il y a peut-être des expériences qui sont plus réussies que d'autres, et qui peuvent peut-être apprendre à des gens, enrichir grâce au théâtre, pourquoi pas.
Marie Sorbier ?
Oui, peut-être rappeler en préambule que le théâtre a toujours quand même été un lieu de la pensée, donc qu'elle se perdure d'une forme ou d'une autre, après tout, pourquoi pas. Je me suis dit, en voyant comme vous la prolifération de ces spectacles-conférences, on en voit quand même beaucoup, hein, et dans les saisons, et dans les festivals. Alors après, c'est une forme qui économiquement est avantageuse, donc il y a peut-être d'autres aussi critères plus pratiques, mais je me suis dit que ça venait aussi peut-être du délitement des autres endroits de pensée collective, qui pouvaient être ou académiques ou politiques, où les gens pouvaient partager une pensée ensemble, qui peut-être n'existe plus ou moins, et du coup le théâtre reprend un rôle de pensée et puis de partage, surtout de pensée avec un public. Ça, c'est théorique.
Oui, ce qui est terrible par ailleurs, parce que le principe même n'induit pas franchement d'échange. Donc pour une forme militante de partage d'idées, c'est pas exactement la bonne forme.
Mais parfois on peut partager en écoutant. J'ai l'impression qu'accueillir une pensée, ça peut aussi faire partie d'un partage qui serait a posteriori. Moi, ce qui me gêne, c'est que je crois profondément que le théâtre, c'est aussi de la forme. En tout cas, c'est ce qui me touche, moi, particulièrement. Et parfois, des idées, même des idées intellectuelles, même de la pensée, me sont parvenues de façon beaucoup plus prégnante grâce à une image ou à une forme qu'à un mot ou qu'à un déversement de mots. Et, Et je trouve magique au théâtre d'utiliser la machine théâtre pour créer une image, pour faire passer une idée. Alors de l'amoindrir ou de la réduire à une conférence, alors certes donnée par un acteur, alors c'est peut-être plus accessible que par un professeur au Collège de France. C'est certainement ça la différence entre les deux, c'est la diction par l'acteur. Mais je ne suis pas persuadée que ce soit tout à fait le rôle du théâtre.
Oui, moi je répondrais alors peut-être différemment, mais ce qui m'intéresse plutôt ce sont les fausses conférences, parce que ça c'est une forme qui est éminemment théâtrale. Alors on va reparler comme ça de Fèdre de François Chéniaud, le grand succès du festival au festival d'Avignon, fausse conférence sur Fèdre qui va se... On en reparlera quand il sera programmé dans nos latitudes, mais je repense aux vieux, enfin déjà anciens spectacles d'Alorie Gurgère et Antoine Defort, Germinal, qui partait aussi du même principe. Spectacle absolument formidable, qui s'est joué partout et qui prenait vraiment le plateau comme espace de création possible d'un monde nouveau. Et ça partait vraiment dans tous les sens, mais d'une façon extrêmement élaborée,
didactique.
On peut penser autrement aussi au travail que mènent ensemble Eric Didry et Nicolas Bouchot. C'était particulièrement vrai sur le spectacle sur Célan, qui était vraiment sous la forme de reprendre une conférence de Célan qui recevait un prix et en même temps partir sur des explications, ça s'appelait le Méridien. Enfin, il y a quand même toute une série de spectacles comme ça qui utilisent cette forme-là. Et moi, c'est à cet endroit-là vraiment que ça m'intéresse, parce qu'on est vraiment revenu au théâtre en sortant par une forme qui fait semblant de ne pas en être. Et donc, je trouve que ça génère beaucoup de choses chez les spectateurs, en tout cas chez moi. Lucille Comeau.
Mais c'est là que réside une confusion qui est assez étrange, moi je trouve, à comprendre en tant que spectatrice et lectrice de programme. C'est que peuvent être appelées conférences-performances quelque chose qui met à distance le principe même de la conférence en s'en moquant, ou du moins politiquement en mettant à distance le statut de l'expert, qui parle, de quoi on parle, et des choses qui au contraire sont très collées au réel, très collées au public, et qui sont en effet du cours ou du témoignage, disons, mis en scène dans un espace confortable, avec une lumière correcte. Et ça, ce mot-là, conférence-performance, il est utilisé exactement de la même manière. Je trouve ça assez étonnant.
Je crois que dans les spectacles que vous avez cités, Arnaud, justement, le mot conférence n'apparaissait pas, il me semble, et que c'était vraiment présenté comme des spectacles de théâtre. Alors, en effet, ils usaient de la forme de fausse conférence, mais ils n'étaient pas affichés comme tels.
Ah, Germinal me demande si, au début.
Peut-être pas ce spectacle-là, mais je crois que je ne sais plus leur nom. Mais oui, ils ont déjà utilisé ce terme-là, qui est un terme qui existe depuis les années 60.
Il est présenté comme une conférence. Philippe Chevillier.
Ce qui peut bien marcher aussi, c'est l'intervention parfois dans des spectacles un peu baroques d'un conférencier. Je me souviens par exemple de 1973 de Massimo Furlan, où on avait une imitation de Patrick Juvet, d'Abba, etc. Et intervenait, je crois que le faux père de Massimo Furlan, qui était en fait un philosophe qui parlait de sociologue qui parlait de la variété. Ou alors encore le spectacle de Rambert, je crois que c'était c'était en 2010 peut-être, je sais plus, la micro-histoire économique du monde, qui était un spectacle où ça partait un peu dans tous les sens, il y avait des personnages, des amateurs, et de temps en temps, il y avait un économiste qui prenait son micro, un philosophe, et qui commentait l'économie, et en fait, ça s'intégrait dans un spectacle composite, et ça fonctionnait assez bien. Mais une conférence performance, bon, je vais peut-être pas y aller tout de suite.
Au sens absolument littéral de la chose. Est-ce qu'on peut rappeler, Lucille Comeau, le titre de l'ouvrage et son éditeur dans lequel figure ce texte de Clarisse Bardiot pour conclure cette séquence?
Donc, c'est Les Théâtres Documentaires, tout simplement, dirigé par Erika Magris et Béatrice Picon-Valin, et c'est aux éditions Deuxième Époque.
Oh, c'est une somme absolument énorme.
Très universitaire, mais il y a beaucoup de choses, et il y a aussi des choses sur le théâtre documentaire hors France, sur l'Angleterre, l'Italie, c'est très intéressant.
Voilà, on peut aller piocher dans cette somme. On peut fermer les pages de votre journal ?
Tout à fait.
Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, David Dana nous a rejoint pour nous rappeler dans un premier temps la question posée vendredi soir et nous donner sa réponse. David.
Que symbolise le bouquet de tulipes de Jeff Koons installé dans les jardins des Champs-Élysées ? C'est le symbole de l'amitié franco-américaine au lendemain des attentats de 2015.
Ça, c'est pour le discours de communication. Après, bon, si on lance le débat, ça va être un petit peu long, oui, c'est ça. Bon, Enfin, c'était la réponse qu'il fallait donner pour gagner je ne sais plus quoi. Ce soir, je sais ce qu'on va gagner. On va gagner les invitations pour assister à l'enregistrement du podcast L'Expérience de notre camarade Aurélie Charron. C'est au Paris Podcast Festival, samedi 19. C'est à la Gaîté Lyrique à Paris. Quelle est la question, David ?
Qui est l'architecte de la Gaîté Lyrique ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Issa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et David Dana. Prise de son ce soir, Jean-Guilain Meige. Réalisation, Alexandre Fougeron. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. Nous vous donnons rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie de Clémentine Goldsalz, Sophie Rosemont et Christophe Comte. Sur nos platines, les nouveaux disques d'Alain Souchon, de Vincent Delerme et de la Féline.